affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous transporter dans une époque troublée, dans une cité jadis rayonnante, mais alors tourmentée par sa propre décadence, par les menaces qui pèsent sur elle. Une cité en proie au doute d'elle-même, de ses valeurs et de sa destinée. Une cité qui a le sentiment de vivre, sinon la fin du monde, du moins la fin d'un monde. Cette cité n'est pas le Paris contemporain confronté au vent de la mondialisation, c'est la Rome du haut Moyen-Âge ou de la fin de l'Antiquité, c'est tout comme, je crois. Mais nous n'allons pas, rassurez-vous, nous y rendre pour aggraver le sentiment de malaise et les tourments qui nous saisissent parfois. Nous, Européens occidentaux et singulièrement Français, nous allons y aller, bien sûr, pour essayer d'y déceler des chemins d'espérance. Et pour effectuer ce chemin, pour cheminer, nous avons la chance de recevoir dans nos studios Monseigneur d'Agens. Monseigneur d'Agens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évêque d'Angoulême, membre de l'Académie française, et ce n'est pas un hasard si nous vous recevons aujourd'hui pour traiter ce sujet. C'est parce que, plus jeune, vous aviez publié une thèse de doctorat sur Saint Grégoire le Grand. Or, Saint Grégoire le Grand était l'évêque de Rome en cette période troublée. Et il va donc nous être certainement d'un grand secours pour affronter les défis d'aujourd'hui et peut-être de demain, voire même pour relire les nombreuses autres périodes troublées qui nous séparent de cette Rome du haut Moyen-Âge, car aujourd'hui nous sommes bien dans le chaudron, mais ce n'est probablement pas la première fois que l'humanité est confrontée à de tels défis. Mais pour commencer, replacez-nous peut-être le contexte. Cette Rome du haut Moyen-Âge, à quoi doit-elle faire face? À quoi les contemporains sont-ils confrontés?
Je vous remercie de cette manière de, non seulement de présenter cet ouvrage sur Saint Grégoire le Grand, ses recherches, mais de faire la relation entre le temps du haut Moyen-Âge et les temps d'aujourd'hui. Et de nous inviter, vous l'avez prononcé le mot, de chemin d'espérance. Comment est-il possible d'espérer alors que les épreuves, les phénomènes de décadence semblent les plus déterminants? Grégoire le Grand, c'est un homme de la société romaine, la société patricienne de Rome, qui est choisi comme pape en 590, à la fin du VIe siècle, c'est-à-dire à une époque marquée par plusieurs phénomènes. D'une part, il y a d'abord la séparation entre le monde oriental. Constantinople est devenue la capitale de l'Empire, mais elle est à l'Est, si je peux dire, dans l'Asie mineure. Et puis, l'Italie est occupée par des populations que l'on dit barbares, populations lombardes, Longobardi, qui donne le nom à Lombardie. Depuis un certain nombre de décennies, les Lombards occupent l'Italie et la ville de Rome est cernée. Les Lombards occupant le nord et aussi la région de Naples, donc au centre de la péninsule, Rome est cernée. Et en 590, la peste a fait des ravages. Le pape Pélage II est mort de la peste. Le Tibre a débordé et la ville est abîmée par les invasions successives des décennies et même des siècles précédents. Et cet homme nommé Gregorius, qui vient du grec du verbe éveiller, c'est-à-dire un homme éveillé et un homme en même temps du réveil chrétien, qui va devenir l'homme du réveil chrétien en des temps extrêmement troublés, est choisi comme pape. Il a refusé d'abord, il devait écrire à l'empereur de Constantinople, il lui a dit qu'il refusait, on raconte qu'il est allé se cacher, mais le peuple a insisté, le peuple de Rome, les chrétiens de Rome, le connaissaient déjà. Comment ? Parce qu'il est d'une grande famille qui donnait des fonctionnaires à l'Empire. Et après avoir fait les meilleures études qu'on pouvait faire à Rome dans la deuxième moitié du VIe siècle, c'est-à-dire des études de droit et des études de grammaire et de rhétorique, selon la grande tradition de l'Antiquité païenne, il est formé dans le moule de l'Antiquité païenne, qui va transformer de l'intérieur. Et alors, il a fait des études et il a exercé très probablement la charge de gouverneur de Rome. Pendant un certain nombre d'années, il a une trentaine d'années. Et puis, avoir été gouverneur de Rome, il éprouve le désir de changer de vie et il va vivre une vie monastique dans son palais sur la colline du Cédius à Rome, qu'il transforme en monastère. Et il a vécu comme moine, en espérant qu'il vivrait toute sa vie comme moine. Puis le pape Pélagie II l'a repéré, l'a ordonné diacre, et l'a envoyé comme son représentant, nonce apostolique, si vous voulez, à Pocrisière, à Constantinople, où il a vécu pendant 5 ou 6 ans des années extrêmement difficiles, heureusement avec quelques compagnons moines qu'il avait amenés de Rome. Il revient à Rome, là, il reste à l'écart, on ne sait pas très bien, il vit dans sa communauté monastique, et puis, en 590, on le connaît, et on sait qu'il a exercé des fonctions publiques, on sait qu'il est devenu moine, on sait qu'il avait la confiance de Pélagie II, il est choisi, Grégoire, évêque de Rome, et il accepte. Et pendant 14 ans, de 590 à 604, dans des conditions extrêmement tourmentées, et qu'il décrit d'ailleurs dans ses homélies, il va vivre de l'espérance chrétienne, l'espérance qu'il puise dans la parole de Dieu, dans des temps extrêmement troublés, mais sans jamais désespérer. Un signe, et je me bornerai là, les Lombards étaient réputés comme des barbares et des hérétiques, c'est-à-dire ils ne croient pas à la divinité de Jésus, ils sont ariens, ils professent l'arianisme, et Grégoire n'hésite pas à avoir des relations avec les Lombards, et notamment avec la femme du roi, qui s'appelle Théodelinde, Agiluf le roi, Théodelinde, et par exemple il envoie un cadeau pour la naissance de leur fils, qui sera leur héritier. Et de même, il va envoyer des missions, alors qu'il pense que les ruines et les tourments et les guerres sont telles que la fin du monde approche, alors que, à vue humaine, il évalue le monde près de sa fin, et comme vous disiez tout à l'heure, c'est la fin d'un monde et ce n'est pas la fin du monde, il ose, sans hésitation, envoyer des missionnaires ailleurs, et notamment en Angleterre. Augustin, qui deviendra le premier évêque de Canterbury. Autrement dit, il est devenu, je ne dirais pas par la force des choses, mais par la force de Dieu, un homme d'espérance, un pasteur qui espère au milieu des épreuves de son temps. Et quand, à ma soutenance de thèse à la Sorbonne, qui était présidée par Henri-René Maroux, le professeur Mandouze, avec son accent bordelais, je suis bordelais moi aussi, m'avait dit « Enfin, d'Agen, qu'est-ce que vous avez appris de Grégoire ?» J'avais répondu « L'espérance chrétienne en des temps d'épreuves. » Et je n'ai pas changé d'avis. Et je continue à fréquenter Grégoire comme, vous le disiez tout à l'heure, comme un maître qui m'apprend à vivre d'espérance dans une société très inquiète.
Au départ, donc si je suis cet exposé, Saint Grégoire le Grand, qui n'est pas encore Saint Grégoire le Grand bien entendu, est un homme du monde antique.
Il est formé... il sera très critique à l'égard de ce qu'il appelle la sapientia mundi, la sagesse du monde, c'est-à-dire la tradition de la culture païenne. Mais il a été formé dans ce moule de la culture païenne, comme tous les pères de l'Église. Même s'il dit le contraire, c'est dans ce moule qu'il sait s'exprimer. Il a un art à la fois d'écrire et de parler. Ses homélies ont été enregistrées, sténographiées, et on les a. Il a un art de s'adapter à ses auditoires. Il n'avait pas été pasteur jusque-là. Quand il devient pape, il devient évêque de Rome. Et devenant évêque de Rome, il va prêcher tous les dimanches dans les églises de Rome, du Célius et du centre de la ville. Il prêche et il sait admirablement s'adapter à ses auditoires. Par exemple, septembre 593, si ce n'est pas septembre, c'est août, les Lombards cernent la ville. Il fait extrêmement chaud et Grégoire dit, il avait une santé très fragile. Il dit, je suis très fatigué, il fait très chaud, je n'ai pas préparé. Une confession extraordinaire que comme évêque, je comprends très bien. Il dit, je n'ai pas préparé, mais, je vais le dire en latin, je traduirai aussitôt, vobiscum audio quod dico. C'est-à-dire, c'est en même temps que vous, Vobiscum, que, à audio, j'entends ce que je dis. Autrement dit, ça c'est l'expérience du prédicateur, je fais la même expérience. J'ai tout préparé, je rédige toujours mes homélies, mais en même temps je regarde dans les yeux, je regarde les visages des personnes qui sont là, et c'est la présence des personnes, c'est des visages, c'est des regards qui me donnent de dire ce que j'ai déjà préparé, mais qui rejoint l'auditoire parce que, alors il le dit comme Augustin, le même Esprit Saint travaille dans le cœur du prédicateur et dans le cœur et les consciences de ceux et de celles qui écoutent. Il a écrit...
ça crée comme une sorte de dialogue et de dialectique.
Oui, tout à fait.
De réponse et de cheminement ensemble vers la...
De véritable partage. Il écrira plus tard, à peu près au même moment, il écrit ce qu'on appelle une regula pastoralis, une règle pastorale à l'usage des pasteurs de son temps. Or, cette règle pastorale, comme d'ailleurs le pape François l'a fait dans Evangelii Gaudium, il y a plusieurs chapitres sur l'art de la prédication, ars predicandi, parce qu'il estime que les prédicateurs, ce sont les éducateurs du peuple, ce sont les missionnaires. Et il donne, je crois, une trentaine de catégories de gens auxquels on s'adresse, par antithèse. Il y a les vieux et les jeunes, il y a les pauvres et les riches, il y a les colériques et il y a les calmes, il y a les violents et il y a les pacifiques. 30 catégories pour dire aux prédicateurs de son temps, sachez vous ajuster aux gens auxquels vous vous adressez. Et cette regula pastoralis a été le manuel des pasteurs jusque, non seulement à l'époque carolingienne, c'est-à-dire 800, si vous voulez, le 9e siècle, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles après lui, et également pendant tout le Moyen-Âge. Et je pense qu'on peut la relire aujourd'hui parce qu'elle est pleine de finesse dans la manière d'être en relation, quand on prêche la parole de Dieu, avec le peuple qui est présent. On n'est pas en dehors.
Le rapport un peu particulier qu'il entretient avec le peuple n'est-il pas dû aussi au-delà de l'empathie spontanée qu'un homme de Dieu peut avoir ou qu'un pasteur peut avoir pour ses brebis, n'est-il pas dû aussi à ses anciennes fonctions et à, comme vous l'avez dit, le rôle joué justement par le peuple.
Il a été, j'ai dit tout à l'heure, gouverneur, on dit en latin, on dit praefectus, on dit préfet de Rome, c'est la même chose. Et gouverneur, il était chargé à la fois des finances et de la police. Il avait des responsabilités publiques. Alors, il est vrai, je vais répondre en deux temps. Il a laissé près de 800 lettres. Et j'ai puisé aussi dans ses lettres, dans ma recherche sur lui. Et il s'adresse souvent à des évêques, à des abbés de monastères, mais il s'adresse aussi à l'empereur, qu'il a connu à Constantinople. Il s'adresse également à des hauts fonctionnaires impériaux. Et il leur parle de la pratique de la justice, notamment dans les affaires financières, du refus de la corruption, pas nouveau, si je peux dire, notamment en Sicile, on dit aujourd'hui la mafia, du refus de la corruption, de la pratique de la justice, du respect des personnes.
C'est pas la peine d'aller si loin, là, je vous...
Non, bien sûr. Mais il leur parle comme quelqu'un qui a eu l'expérience de ces pratiques-là, de la justice, du respect des personnes, de la maîtrise des affaires financières, y compris pour les fonctionnaires du Saint-Siège. Parce que le Saint-Siège, comme on dit, l'évêque de Rome, l'évêché de Rome, était propriétaire de beaucoup de terrains, aussi bien en Campanie, du côté de Naples qu'en Sicile. Et il leur donne des conseils d'une sagesse pratique extraordinaire, en particulier pour que les pauvres aient droit au bénéfice des récoltes dans tel ou tel territoire. Alors, il y a le quart ou le cinquième de ces lettres, qui sont des lettres écrites par quelqu'un qui connaît le terrain, nous dirions aujourd'hui, des pratiques de la société civile. Mais en même temps, il fait toujours référence à « vous êtes responsable devant Dieu ». Je ne dis pas exactement comme ça, mais « vous êtes responsable devant Dieu et vous avez la responsabilité de vous examiner vous-même » avec une vertu majeure qui est ce qu'il appelle la « discrétion ». C'est-à-dire le discernement qui porte sur soi-même et sur la manière d'exercer soi-même des responsabilités.
Oui, c'est une vertu politique, le discernement.
Voilà, tout à fait. C'est une vertu politique au grand sens de ce mot, c'est-à-dire en grec poli, c'est-à-dire il s'agit de tenir des responsabilités d'une manière durable dans la cité commune. Et c'est le mot de civis, de citoyen, il est fréquent également dans ses écrits. Il va encourager la conscience des responsabilités communes et des responsabilités politiques dans une cité extrêmement tourmentée et inquiète de son avenir. C'est-à-dire qu'il sera, je pense à l'instant, l'épitaphe qu'on lui donnera, il est enterré dans la basilique Saint-Pierre, enfin probablement dans l'atrium, après sa mort, et l'inscription, l'épitaphe métrique en vers qui lui est dédiée, le qualifie de « consul Dei ». Consul de Dieu, c'est-à-dire le fait que ce haut fonctionnaire est devenu un pasteur qui a le sens de, nous dirions aujourd'hui, des responsabilités de l'Église dans la cité des hommes, surtout quand cette cité est bouleversée par les métamorphoses du temps.
Justement, votre vision de Saint-Grégoire le Grand semble s'inscrire dans un mouvement qui a consisté à retrouver derrière le politique, au sens noble du terme, également l'homme de Dieu, voire même le mystique. Généralement, il était jusque-là plutôt resté dans l'histoire, si j'ai bien compris, comme un homme capable d'organiser, de réorganiser ou de faire tenir ensemble une administration ou une cité dans un état quelque peu chancelant. Vos recherches et celles de quelques autres ont permis de retrouver derrière cette façade politique un homme extrêmement soucieux de Dieu et de la conversion, la sienne propre et celle des hommes. Expliquez-nous comment ça s'articule. Est-ce que c'est successif ou est-ce que c'est d'un même mouvement ?
Oui, oui. Il est d'abord reconnu, il doit être reconnu comme un maître de l'expérience mystique. Et c'est comme cela que je l'ai abordé. D'autant plus qu'il avait été dévalué par tous les historiens, surtout allemands, du XIXe siècle. Où on considérait, comme il a écrit 35 livres de méditation sur le livre de Job, de l'Ancien Testament, sous le titre de Moralia. Et on lui reprochait, les historiens allemands du XIXe, lui reprochaient d'avoir abâtardi le christianisme et d'en avoir fait un moralisme plat. C'est faux. Et il a fallu au XXe siècle...
C'est une sorte de religion civique
Si vous voulez, un moralisme, c'est-à-dire, non pas d'abord l'expérience de Dieu, mais d'abord des règlements étroits concernant l'existence humaine. C'est faux. Alors, il n'a pas le génie d'Augustin, mais il a su traduire la pensée d'Augustin sur le terrain de ce qu'il appelle la conversatio hominum, c'est-à-dire l'existence concrète de notre humanité. Je l'ai abordé ainsi dans ma thèse. Ma thèse, je l'ai faite quand j'étais jeune prêtre à Paris, jadis à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dans les années 70. Et à ce moment-là, je l'ai réévalué en m'inscrivant dans une tradition qui avait été illustrée par le père de Lubac, qui lui a consacré de grands chapitres dans Exégèse médiévale, dans son livre Exégèse médiévale, et puis par mon maître Henri-Irénée Maroux, et d'autres encore, en Italie notamment, mais surtout Henri-Irénée Maroux, qui en 1943 avait écrit un grand article dans la revue Spirituelle pour revaloriser Grégoire comme auteur mystique. Je me suis inscrit dans ce sillage. Mais je dois dire que je viens de republier cette thèse. Calculez-vous-même, j'ai commencé dans les années 70 et je republie cette thèse en 2014. Je suis évêque depuis 27 ans. J'ai un peu de métier. Et je dois dire que je sais maintenant, avec le recul du temps et de l'expérience, ce que j'ai appris de Grégoire. C'est-à-dire, j'ai appris ce qui n'apparaît pas toujours, la primauté de l'expérience intérieure. Grande partie, c'est structure de l'expérience chrétienne, et avec trois parties, intériorité, conversion, eschatologie. Il se trouve que j'ai dialogué l'autre jour avec Julia Kristeva à la cathédrale de Metz pendant un après-midi de dialogue, exercice d'admiration mutuelle. Julia Kristeva devait dire tout le bien qu'elle pensait de moi après avoir lu, et moi réciproquement. Elle a commencé, et elle a dit qu'elle a valorisé ce que je faisais valoir de l'expérience intérieure comme catégorie majeure de la nouveauté chrétienne dans le monde à partir de Grégoire le Grand. Et aussi d'un livre récent que j'ai écrit, « Lettre de Jésus à Judas, à l'ami qui s'est brisé ». La primauté de l'expérience intérieure comme la forme spécifique du christianisme dans le monde. Du christianisme qui n'est pas d'abord un système d'ordre ou de pouvoir, mais une inspiration intérieure appliquée à l'ensemble de l'existence humaine. Et dans ces 35 livres sur le livre de Job, il y a une évocation permanente du cheminement de l'expérience humaine à travers notamment les épreuves, ce qu'il appelle les flagelladei, et les tentations. Et avec cette acquisition majeure qui n'est pas autant chez Augustin, c'est que le mal, l'expérience du mal, fait aussi partie de l'expérience chrétienne. C'est-à-dire, c'est l'anti-manichéisme. Il n'y a pas d'abord le bien et le mal, mais Augustin le dit aussi. Il y a d'abord ce qu'Augustin appelle la permixtio, c'est-à-dire le méli-mélo. L'histoire humaine, l'Église, et chacun de nous est un méli-mélo de bien et de mal. L'Évangile dit de bon grain et d'ivraie. On peut dire aussi de beauté et de laideur, de bonté et de violence. Et c'est à travers tout cela, c'est la lecture de cette existence humaine complexe qui fait l'originalité de Grégoire. Alors, les historiens du XIXe, qui ne voyaient la théologie qu'à travers les grands maîtres que sont les Grégoire de Nice, de Nazianze, Irénée, Athanase, etc., voyaient la gloire de la théologie qui se déploie. Avec Grégoire, nous sommes sur le terrain concret de ce qu'il appelle la conversatio hominum. Et il cite une multitude d'exemples. J'ai un petit chapitre qui s'appelle, en employant le terme latin, non nulli. Il est certaines personnes qui font ceci, qui font cela, ou qui ne croient pas que les épreuves et les péchés, les tentations, vont participer à leur progression spirituelle. C'est ça qui est le plus beau. Comment est-il possible que le mal, les péchés, les turpitudes, les passions, les pulsions, ce n'est pas des mots, c'est des mots de la psychanalyse d'aujourd'hui, c'est pour ça que je me retrouvais bien avec Julia Kristeva, nos passions et nos pulsions, comme dit un auteur que j'aime beaucoup, un philosophe qui s'appelle Emmanuel Falk, nos chaos intérieurs. Eh bien, Grégoire le Grand, il avait pour lui-même certainement, a le sens des chaos intérieurs de la cité, de l'Italie, mais en même temps le sens des chaos intérieurs de toute expérience humaine. Et il use la discrétion pour essayer de discerner comment les chaos intérieurs, je traduis à ma manière, sont aussi des étapes du chemin de la foi chrétienne dans le monde.
Pardonnez-moi, ça peut vous paraître un petit peu hardi, mais n'est-ce pas une façon de trouver une issue face à un développement historique non favorable ?
Ah, je crois qu'il n'a pas, il ne pensait pas les réalités du monde de cette manière dialectique, c'est-à-dire pas en termes de compensation. Il vit son temps. Il le vit comme un temps extrêmement éprouvant. Et dans ce temps, son appui, c'est la parole de Dieu. Alors, revenons à Job. Job, on peut lire le livre de Job, c'est un homme qui peu à peu perd tout. C'est un grand propriétaire. Or, ses troupeaux sont pris par des sauvages qui viennent les enlever. Tous les gens de sa famille meurent, sa femme se moque de lui, sa femme est toujours là, mais elle se moque de lui, et ses amis viennent lui dire « mais si tu souffres, c'est que tu es coupable ». Et voilà, la perversion, la culpabilité, s'il y a du mal, il y a des coupables, donc si toi-même tu as mal, tu es coupable. Eh bien, Grégoire le Grand a vécu de cela, mais sans du tout avoir un projet de compenser par la méditation intérieure, les troubles de ce qu'il appellerait, de ce qu'il appelle les réalités extérieures. Il vit son temps de l'intérieur, je ne dirais pas seulement de la foi, mais de l'espérance chrétienne. Je vais donner une référence, il me pardonnera, Jean d'Ormesson. On demande quelquefois, est-ce qu'il est croyant, est-ce qu'il est agnostique ? Je le lis, et je le rencontre, et j'entends ceci. Il a dit lui-même, il l'a écrit à plusieurs reprises, « Je doute en Dieu ». Et surtout, il espère en Dieu. Il espère en Dieu. Et chez Grégoire, il y a certainement la force de l'espérance. Et comme dit l'apôtre Paul, espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Dans la lettre aux Romains, espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Or, Grégoire, dans une société qui semble s'effondrer, Grégoire ne cesse pas d'attendre que le travail de Dieu agisse et permette des... je ne sais pas comment dire, permettre de vivre, permettre d'avancer, permettre d'aimer la vie. Je pense qu'il devait rencontrer beaucoup de gens, pas seulement quand il prêchait, mais les rencontrer comme le pape François, qui a l'expérience du pasteur qui donne le sacrement du pardon, comme lui-même d'ailleurs. Il parle de la miséricorde comme quelqu'un qui l'a exercée. Alors je fais le rapprochement avec le pape François, et il parle de la miséricorde à partir... C'est assez étonnant parce que ce n'est pas un thème qui a été développé dans les grandes périodes d'expansion chrétienne, l'humilité de Dieu. Et il a une phrase, enfin je la sais en latin, mais je vais la dire en français. Il dit « Dieu s'est fait humble », et humble ça veut dire être sur la terre, hein, « humilis », la terre, « humus ». Dieu s'est fait humble pour que il se mette, enfin il dit pas pour se mettre au niveau de l'homme, mais pour que l'homme ne puisse pas devenir orgueilleux, puisque Dieu lui-même s'est abaissé sur notre terre. Alors, il ne dit pas qu'il a lavé les pieds de ses disciples, mais l'humilité de Dieu comme le principe de compréhension des réalités humaines par rapport à Dieu et de la relation à Dieu. Bon, il n'est pas, si vous voulez, comment dire, viennent les épreuves, les échecs, les effondrements, le royaume de Dieu ne cesse pas de germer. Alors là, je transpose, si vous voulez, ce que je vis aujourd'hui comme évêque. Il y a aujourd'hui, et Grégoire m'a appris cela, l'espérance en des temps d'épreuves, souvent on ne voit que ce qui s'effondre, ce qui disparaît, ou ce qui ne sera plus comme avant. Je souffre, comme lui devait souffrir, lorsque on ne voit pas ce qui germe, c'est-à-dire en particulier, je parle de l'Église d'aujourd'hui, la fraternité chrétienne, entre des hommes, des femmes, des laïcs, des prêtres, la fraternité grandit au milieu des situations éprouvantes. Et plus les épreuves nous atteignent, plus nous apprenons à aller à l'intérieur, c'est-à-dire à la source. Et à la source de l'humilité de Dieu qui s'engage avec nous et fait alliance avec nous. J'ai appris cela de Grégoire. Vous voyez, ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai dit trop rapidement, je l'ai découvert il y a, dans les années 60, quand j'étais à l'École française de Rome, et puis ma thèse est venue après, je l'ai soutenue, thèse de théologie d'abord, puis thèse à la Sorbonne en 77, et c'est, calculez vous-même, nous sommes maintenant plus de 40 ans après, de 70 à 44 ans après, si je compte bien, et je comprends maintenant ce que j'ai reçu de lui.
Il fait un parallèle entre, vous parliez de Job, si je ne me trompe pas, il fait un parallèle entre Job et le Christ.
Oui, bien sûr. Alors ceci est classique, enfin n'était pas aussi classique avant lui, c'est déjà, je pense que ça doit être chez Augustin, je n'en suis pas sûr, mais c'est assez probable. Oui, bien sûr, c'est-à-dire, comment dire, ce n'est pas, comme d'autres saint Martin de Tours, Jésus n'est pas d'abord le triomphateur, ce n'est pas le pantocrator des basiliques byzantines. Alors, il a vu ça peut-être à Byzance également, et c'est la différence dans l'Occident qui va devenir chrétien, l'Occident du haut Moyen-Âge qui se prépare et dont il est un des inspirateurs. Oui, effectivement, sa spiritualité n'est pas du tout une spiritualité de la conquête ou de l'illumination. C'est une spiritualité de la lutte permanente. Et je dois dire que je préfère cela.
Vous employez souvent l'expression de nouvelle culture chrétienne.
Oui.
Est-ce que cette nouveauté se situe là ou dans d'autres aspects ?
Eh bien, effectivement, la foi chrétienne, nous l'avons quelquefois oubliée, touche à la culture. Enfin, au sens fort du terme, que j'ai appris aussi de Marou, qui fait sa thèse sur saint Augustin et la fin de la culture antique, Henri Marou. La culture, c'est-à-dire la manière de se situer dans le monde et de comprendre le monde. Et comme je le vois dans mon diocèse, il ne suffit pas, enfin, il n'est pas, comment dire, la culture, avoir une culture universitaire ne suffit pas pour comprendre le monde et se situer dans le monde. On peut, on peut profiter d'une culture élitiste pour se resserrer sur soi-même. Alors que la culture permet de se situer largement dans le monde. Alors, le Grégoire est d'abord un éducateur. Or, j'ai appris de mes maîtres, Joseph Ratzinger l'a souvent dit aussi, le christianisme, dès ses origines, s'engage sur le terrain de l'éducation. Pourquoi ? Parce que la source, c'est la parole de Dieu, la Bible, et qu'il faut s'affronter à un texte. Et pour s'affronter à un texte et interpréter le texte, il faut apprendre à lire, à écrire, à comprendre et à interpréter. Donc le christianisme est devenu, il a traduit la Bible dans toutes les langues du monde, et on a appris à lire et à déchiffrer. Autrement dit, il y a un rapport presque immédiat entre l'initiation chrétienne et l'éducation à la lecture et aussi à la parole. Or, Grégoire est devenu, un peu au-delà de lui-même, un grand éducateur du peuple de Dieu. Et c'est cela qui demeure de lui dans les siècles qui suivent. Il est comme un éducateur du Moyen-Âge et un inspirateur de cette nouvelle culture chrétienne, comme l'a très bien compris Julia Kristeva, qui ne cherche pas à s'imposer au monde, mais qui cherche à travailler à l'intérieur de l'humanité commune. Or ça, c'est une très grande conversion. Nous situer comme Grégoire, aujourd'hui. Aujourd'hui, et nous n'y sommes pas spontanément portés parce que nous sommes tributaires d'un certain nombre de siècles, notamment en France, où nous avons eu des rêves de régenter la société, nous situer sur le terrain de notre humanité commune.
Dans cette perspective-ci, la situation aux marges de la société qui est celle de l'Église par rapport à d'autres siècles est finalement un atout, alors, si je vous comprends bien.
Je vous remercie d'en dire autant. Je n'en dirai peut-être pas, mais pourtant, si, merci. C'est-à-dire... non pas parce que nous serions... c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enorgueillir, être fier d'être devenus plus ou moins marginaux, mais la situation d'éventuelle marginalité, quelquefois de réelle marginalité, c'est qu'il y a du neuf. Autrement dit, notre situation, on croit savoir ce qu'est le christianisme ou le catholicisme aujourd'hui, mais on ne le sait plus. Et je le vois avec les jeunes que je rencontre, ils ne savent pas. Ils font face non pas tellement à la dérision, mais à l'ignorance. Mais l'état d'ignorance, se prolonge par l'exigence d'initiation à ce qui est nouveau. On ne sait plus ce que c'est que la réalité chrétienne, la nouveauté chrétienne, raison de plus pour la réapprendre nous-mêmes ou l'apprendre nous-mêmes et initier d'autres personnes chez lesquels il y a des attentes spirituelles qui coexistent avec une ignorance généralisée. Donc, nous sommes sur un terrain d'éducation possible. Vous avez dit à tout, je ne nie pas la valeur de ce terme.
C'est-à-dire que la bonne nouvelle est à nouveau nouvelle.
Oui. Et la bonne nouvelle, alors là, je ne peux pas m'empêcher de me référer au pape François, que j'aime beaucoup, dont je pense que nous n'avons pas encore compris tout ce qu'il a porté de nouveau, que nous ne savons pas assez le soutenir dans son entreprise, non pas de réorganisation structurelle, institutionnelle, même qu'il faut réformer la curie, mais de rénovation intérieure du christianisme, avec la référence de son nom, François. Et on sait... la fameuse parole que ce jeune riche, fils d'un très grand marchand de drapier d'Assise, entend un jour dans l'ermitage de Saint-Damien, dans la périphérie d'Assise, où je vais d'abord quand je vais là-bas, à Assise, va François, un Italien, lui dit Jésus à travers la croix byzantine qu'il contemple, va François, répare ma maison, car elle tombe en ruine. François comprend qu'il faut donner de l'argent pour réparer Saint-Damien, et puis quelque temps après, il comprend qu'il ne s'agit pas de réparer des ruines, mais qu'il s'agit de rénover de l'intérieur l'Église. Et je trouve qu'il se trouve qu'une personne d'un certain âge que j'ai rencontrée la semaine dernière à Cognac, dans une visite pastorale, a dit ceci. À Cognac, il y a une église dont il faut réparer le toit, une autre dont la voûte allait s'effondrer, mais elle va réouvrir. Et cette personne disait, j'ai l'impression que c'est chez nous un peu comme à Assise, nous entendons la parole, adressé à tous les chrétiens et à d'autres personnes également qui ne partagent pas immédiatement notre foi, mais qui comprennent l'enjeu, il y a des ruines. Et il s'agit non pas de réparer administrativement ou financièrement, il s'agit de se reconstruire. C'est un terme qui appartient au vocabulaire de la psychologie et de la psychanalyse, nous le connaissons tous d'une manière ou d'une autre, se reconstruire de l'intérieur. Et si je peux dire, se reconstruire pas seulement à partir des fondations, mais à partir de la source. Et la source, alors, je parle comme le pape François parce que je le vis moi-même, à la fois pour d'autres et pour moi-même, se reconstruire à partir du cœur de Dieu et de la miséricorde du Christ. Je suis à l'Académie française, ici, et je n'oublie pas que j'ai eu à faire le discours sur la vertu en décembre 2013, pour remplacer M. Giscard d'Estaing qui était retenu à Pékin. Et donc, j'ai dû faire ce discours, et je l'ai fait après avoir lu le grand texte du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, et j'étais porté sur les ailes, si je peux dire, du pape François, et j'ai fait de ce discours sur la vertu à l'Académie française un éloge de la miséricorde. Et si vous saviez comme j'étais à la fois ému et heureux de citer sous la coupole l'Évangile Les dernières paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dire ça dans une église ou une cathédrale, comme évêque, c'est facile, d'une certaine manière. Mais le dire sous la coupole de l'Académie française, j'avais Jean-Marie Houard à ma droite, Hélène Carrère-Dancos, et puis l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, sa femme Sylviane Agacinski, et bien d'autres, comment dire, de milieux cultivés parisiens et autres. Dire cela, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis j'avais commenté un discours sur la vertu de, j'oublie toujours son nom, ce qui est un signe évidemment, de celui dont Général de Gaulle ne voulait pas qu'il soit élu à l'Académie française. Vous savez, l'ancien ambassadeur,
Morand.
Paul Morand. Et Paul Morand, disant, citant une dame qui avait lu la divine, qui avait lu Dante, et notamment les textes de Dante sur l'enfer, en disant, sur l'enfer, on sait beaucoup de choses, sur le paradis, on ne sait pas beaucoup. Et j'ai cité la parole de Jésus à ce que l'on appelle le bon larron, c'est-à-dire ce criminel qui se repent à côté de lui, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, je trouve maintenant, chez Grégoire le Grand, à la lumière du pape François et de ma propre expérience de pasteur et d'évêque, cette insistance sur le cœur de Dieu. Cet homme avait du cœur. Il avait compris que dans un temps troublé, ce dont on a besoin, c'est du cœur. De l'intelligence, sans aucun doute, mais d'une intelligence qui a du cœur.
Vous avez parlé des trois dimensions qu'il caractérisait, la vie intérieure, la conversion,
oui.
L'eschatologie.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous reparler de ces trois aspects? Sont-ils successifs, concomitants? Et à quoi correspondent-ils?
J'ai fait des études de philologie, alors j'ai commencé ma thèse en observant les mots. Et j'ai essayé de recueillir les textes, et à l'intérieur des textes, les mots dominants. Et j'ai trouvé les mots autour de intériorité, intus, foris, avec l'opposition intériorité, extériorité. Puis j'ai trouvé également la conversion, et les prédicateurs et les pasteurs que les ministres de la conversion du monde. Et puis l'eschatologie. Alors si vous voulez, c'est très difficile de, en quelques mots seulement, simplement, j'ai compris très vite que, sans le calculer, sans l'avoir cherché à l'avance, Grégoire a conçu des concepts qui permettent de comprendre de l'intérieur l'expérience, je ne dis pas l'expérience chrétienne, l'expérience humaine dans le monde. Et en même temps, et je pense qu'il l'a compris quand il était confronté avec ce qu'on appelle des barbares, mais qui n'étaient pas si méchants que ça, il a compris que ce qu'il pouvait penser, dire et faire ne valait pas seulement pour les fidèles de l'Église catholique, comme on dit aujourd'hui, mais valait pour tous. Il ne le dit pas ainsi. Mais si vous voulez, il y a chez lui un sens, mais vous l'avez compris, un sens spontané de l'universalité. Or, c'est ça que nous avons perdu de vue. D'une certaine manière, malheur à nous si nous pratiquons le communautarisme catholique, comme d'autres religions pratiquent du communautarisme, et parce qu'elles ont peur. Divers côtés. Le christianisme, ce n'est pas du communautarisme parce que nous sommes comme le levain dans la pâte, on est lié à la pâte, ou comme la lampe qui est faite pour donner de la lumière au milieu des obscurités, on est fait pour l'obscurité, si je peux dire, pour passer à travers les obscurités. Autrement dit, on est au milieu de tous et pour tous, et non pas pour nous-mêmes. Et Grégoire a fait cette expérience de l'universalité de la parole de Dieu et de l'expérience chrétienne. Il l'a fait spontanément. Et c'est pour ça qu'il devient un éducateur.
D'où le choix du terme de culture chrétienne.
Oui, culture et expérience chrétienne, oui, effectivement. Alors, je me situais ainsi dans la ligne de mes maîtres. Jacques Fontaine, qui est toujours vivant et qui est le spécialiste d'Isidore de Séville, qui au Moyen-Âge, un peu après Grégoire en Espagne, archevêque de Séville, a collecté toutes les données d'une encyclopédie des réalités du monde, d'immenses dictionnaires. Et de même, et mon maître Henri Maroux avait fait sa thèse sur Saint-Augustin et la fin de la culture antique. Pour montrer ceci, nous voyons souvent l'histoire à travers des catégories de rupture. Et je pense ici, par rapport à l'époque contemporaine, je n'oublie pas que j'ai succédé à René Raymond. Or, René Raymond analysait l'histoire de la France contemporaine, de la Révolution à l'époque actuelle, général de Gaulle et même au-delà, 5e République. Il analysait non pas seulement à travers des catégories de rupture, mais des catégories de continuité, c'est-à-dire qu'est-ce qui demeure au milieu de ce qui change et qui fait référence à l'histoire longue, à la longue durée, pas seulement à l'immédiat. Quand nous ne pensons l'histoire que par rapport à l'immédiat, nous sommes pris dans ce que le pape François appelle des espaces de pouvoir. Les espaces de pouvoir, c'est la conquête immédiate. Vous voyez ce que j'en peux dire, ce sujet, y compris dans l'époque actuelle. Mais j'ai appris de mes maîtres, Henri-René Maroux, mais je dis aussi René Raymond, que j'ai bien connu, j'ai appris à faire valoir l'histoire longue. Bon, et puis, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Grégoire pensait quelquefois que la fin du monde était proche, mais en même temps, il travaille sur un temps long. Et c'est cette référence à un temps long, à la durée, au cheminement, aux transformations, aux métamorphoses. Dans les formes anciennes, des formes nouvelles surgissent. Et c'est le titre de mon dernier
voilà,
livre.
Voilà, c'est juste, enfin, j'allais y venir, c'est le titre de votre dernier livre que vous venez de me remettre, qui s'appelle donc « Survie ou métamorphose, l'avenir du catholicisme ». En France.
Eh bien,
est-ce qu'on
je
peut creuser un petit peu ce sillon.
Oui, merci beaucoup. Je vous recommande la finale. Et la finale, c'est la référence à Grégoire. Parce que le terme de métamorphose, il ne l'emploie pas comme ça, mais il vient de lui. C'est-à-dire, comment est-il possible, tout en voyant et même en étant fasciné par ce qui s'effondre, de percevoir ce qui germe et ce qui a, d'une certaine manière, de l'avenir. Et donc, encore une fois, la conscience des effondrements qu'il avait, mais en même temps, la conscience qu'il y a à l'intérieur de l'histoire des processus longs qui ne peuvent pas s'évaluer immédiatement par définition, mais qui transforment les sociétés et les civilisations. Or, cela... Nous ne pouvons pas le voir, c'est aussi le premier chapitre de mon texte, uniquement à travers les déterminations économiques, financières ou monétaires, qui dominent la pensée actuelle. Je sors, si vous voulez, du sujet, mais je le dis dans le premier chapitre. Je me réfère à Heidegger, qui a un très beau texte très connu, où il oppose la pensée méditante et la pensée calculante. Or, il est évident que la raison dominante aujourd'hui est référée à la raison calculante. Et nous faisons trop peu usage de la pensée méditante. Et la pensée méditante, c'est celle, alors Julia Kristeva l'a très bien compris, c'est celle des poètes. Vivent les poètes ou les hommes ou les femmes de théâtre qui sont parmi nous à l'Académie française. Je pense à Florence Delay, René de Obaldia, les poètes et aussi les mystiques. Je voyais l'autre jour, enfin près de dans la commission où je participe, quelqu'un qui a pris le livre sur Thérèse d'Avila, que j'envie, enfin j'espère que je l'aurai ensuite, les mystiques et puis l'expérience intérieure. L'expérience intérieure, c'est-à-dire, et comme je vous disais tout à l'heure, la capacité de se comprendre soi-même avec ses propres chaos, de ne pas se résigner au chaos, mais d'apprendre à avancer au milieu des chaos, en exerçant notre propre discernement. Si je comprends bien, je ne suis pas du tout spécialiste de psychanalyse, mais j'ai été heureux lorsque, en finale de son intervention de l'autre jour à Metz, Julia Kristeva a fait une espèce de comparaison entre la tradition chrétienne et Grégoire le Grand et Sigmund Freud, c'est-à-dire le père de la psychanalyse, en disant qu'il y a là une voie de libération. Que nous ne savons pas suffisamment. Nous sommes un monde d'extériorité. Mais derrière l'extériorité, on peut discerner aussi beaucoup de croissance intérieure. Donc, ce dernier livre, Survie aux métamorphoses, je recommande, enfin, il a été fait au mois d'août dernier, c'est-à-dire avant les effroyables tueries du début janvier, mais j'ai repris, le premier chapitre, je l'ai écrit en janvier, après les tueries du début janvier, pour essayer de comprendre comment dire, les religions sont sur la place publique, Les juifs ont peur, les musulmans semblent dangereux, les catholiques ne savent pas très bien rendre compte de leur propre réalité, parce qu'on fait comme si elle était déjà connue, mais elle l'est de moins en moins. Et puis, dans une dernière partie là, de ce premier chapitre, alors on retrouve d'une certaine manière l'époque des invasions barbares, notre confrontation n'est plus du tout avec l'humanisme athée. Le marxisme, globalement, n'existe plus. Mais notre confrontation est avec, alors je rejoins Jean-Luc Marion, le nihilisme, c'est-à-dire le jeu avec le bien et le mal, la vie et la mort, et le rêve de transgresser. Et avec, je me permets de faire cette allusion, mais ce n'est pas seul à la faire, où la pratique, enfin les transgressions supposées joyeuses. Et ce sont les mêmes transgressions qui sont pratiquées avec des capitaux ou avec des corps humains. Transgression financière et transgression sexuelle probablement ont quelques rapports, précisément dans le cadre du nihilisme, où l'on va défier la mort en jouant avec la vie et avec la mort, et avec une vision extrêmement pessimiste du monde. Je vois avec les jeunes que je rencontre, j'écoute les chansons, je lis des romans, je regarde la télévision, quel état de désenchantement, de désespérance. Notamment, je crois que le christianisme pourrait aujourd'hui, mais nous ne le savons pas assez, revaloriser l'expérience amoureuse et l'expérience érotique. Je dis bien l'expérience amoureuse et l'expérience érotique, enfin le désir amoureux, c'est-à-dire le désir d'aimer, d'être aimé. Je vois ça, on pourra s'en étonner, à travers les communautés de l'Arche dans mon diocèse, des handicapés, c'est fondé par Jean Vanier, des hommes et des femmes handicapés, et des hommes et des femmes qui viennent vivre de manière ordinaire, continue, avec ces hommes et ces femmes handicapés, et qui nous révèlent nos propres handicaps. Et qui nous révèle qu'à l'intérieur de nos handicaps, mais je parle d'une certaine manière, comme Grégoire, l'élément essentiel c'est à l'intérieur, c'est pas d'un côté ou d'un autre, mais à l'intérieur même des handicaps qui nous blessent, qui nous handicapent par définition, il y a des possibilités, des ressources intérieures de simplement aimer et être aimé. Et nous en sommes tous capables, plus que nous n'imaginons quelquefois. Et je crois que le christianisme peut s'engager là-dessus. Je renvoie à la première encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, où pour la première fois, il essayait de réconcilier l'amour de don, qui ne cherche pas à posséder, et l'éros, c'est-à-dire le désir amoureux, le désir d'aimer et d'être aimé, et de ne pas être possédé.
Vous avez cité tout à l'heure Florence Delay, il se trouve que nous la recevions dans ce studio, et que l'une des conclusions de son expérience de théâtre, et vous êtes appelé aussi aux poètes et aux hommes de théâtre, c'était de dire, à l'instar de Saint-Augustin, « J'ai aimé, aimé ».
Oui, voilà. « Amare amabam », c'est le livre cas des confessions que je connais très bien. « Amare amabam ». Effectivement, on peut dire pour Saint-Augustin que sa conversion n'est pas du tout un renoncement à l'amour, ni même à Amare amabam. Il a aimé tous les gens avec lesquels il a vécu, il a travaillé à Hippone. Sa conversion est un renoncement aux ambitions mondaines. Sa mère voulait qu'il épouse une riche héritière, qu'elle cherchait du côté de la haute société milanaise. Et peut-être pour ça qu'il a été rencontré Saint-Ambroise, mais Saint-Ambroise l'a ouvert à d'autres horizons. Saint-Augustin se convertit en renonçant à ses ambitions mondaines, à ses ambitions de faire partie de l'élite à la fois riche, politique et universitaire de la région milanaise. On ne sait pas assez. Il y a un grand historien de Saint-Augustin, Claude Lepelé, qui est mort il y a quelques semaines et qui avait fait, j'avais organisé un colloque augustinien quand j'étais à Toulouse, sur le renoncement aux ambitions mondaines de Saint-Augustin. Amare amabam, heureusement que Dieu nous donne dans toutes nos conditions la capacité d'aimer et d'être aimé. Il faut admirer cela. Au lieu de nous en plaindre.
En vous écoutant et en lisant aussi votre ouvrage sur Saint Grégoire le Grand, je me demandais si finalement le chemin de crête permanent du christianisme ou du catholicisme, c'est finalement, je crois que c'est cette phrase de Saint Paul, si je ne me trompe pas, disant « il faut être dans le monde sans être du monde ».
C'est une parole de Jésus. Saint Paul reprend, oui, dans le monde et pas du monde. Et c'est-à-dire, c'est le paradoxe chrétien. Et alors, je le dis à la fin, avec Grégoire Legrand, je cite ce texte magnifique que je connais bon, par cœur et par le cœur, qui a été traduit et commenté par Henri Maroux dans Sources chrétiennes, la lettre à Diognète. Diognète est probablement un haut fonctionnaire d'Alexandrie, dans les années au tournant du 2e et du 3e siècle, vers l'année probablement 200, et il demande à un ami chrétien qui reste inconnu de lui expliquer le christianisme. Et cet ami chrétien, qui est un grand écrivain, fait 12 chapitres, mais enfin c'est très bref, qui est peut-être Clément d'Alexandrie, lui explique le christianisme non pas en déroulant le credo, mais en lui expliquant la situation des chrétiens dans le monde païen. Les chrétiens étaient très peu nombreux, 200 Alexandrie sont quelques centaines peut-être, et il lui dit « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est enfermée dans la prison du corps, elle soutient le corps. Les chrétiens sont enfermés dans la prison du monde, ils soutiennent le monde. Autrement dit, ils sont pour tous. » Et j'évoque à ce moment-là, d'un texte auquel je reviens très souvent, une nouvelle de Soljenitsyne que je relis et relis bien des fois, « La maison de Matryona ». Un petit village du Kazakhstan où Soljenitsyne a été relégué. Il a été reçu par une vieille femme qui n'avait plus rien. Son mari l'avait quitté, ses enfants l'avaient abandonné. Et elle va mourir écrasée par un train au passage à niveau près de sa maison. Et quand elle n'est plus là, on découvre, je cite Soljenitsyne, « Elle était ce juste sans lequel il n'est village qui tienne, ni ville, ni notre terre entière. » On dit « Le monde tient par, » alors c'est une thématique juive également, « Le dernier des justes. » Et nous croyons que le monde tient par ses présences cachées. Alors effectivement, nous sommes dans le monde. Bon, il ne faut pas s'effrayer d'être moins nombreux. Nous avons à devenir ce que nous sommes. Ou être ce que nous devenons. C'est encore plus beau. Être ce que nous devenons sans cesse, à travers les épreuves. Et être ce que nous devenons, c'est-à-dire, la responsabilité du tout. Non pas seulement la responsabilité de nous-mêmes, mais la responsabilité que le monde ne s'effondre pas, que le monde tienne, que la vie soit belle et qu'elle puisse être aimée. Dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous ne nous plions pas aux logiques du monde lorsque les logiques du monde sont le mépris, la violence, la peur et la haine et la guerre. Mais l'important, c'est à l'intérieur des logiques violentes du monde, je ne dis pas à l'extérieur, dans le monde. On peut insister sur le « nous ne sommes pas du monde », c'est le négatif, et c'est vrai, mais positivement, nous sommes dans le monde. C'est-à-dire nous ne sommes pas à l'extérieur, regardant d'en haut, d'à côté, ça va mal, ça va bien. Non, 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 nous sommes plantés à l'intérieur. Et plantés à l'intérieur comme l'arbre dont les racines sont là, ou comme le germe qui reste caché, puis qui se déploie peu à peu. C'est toujours un état de germination et de croissance, même si nous ne le voyons pas immédiatement.
Je vous pose une dernière question oui. qui peut sembler un petit peu absurde, mais parfois ça permet quand même des développements oui. inattendus. À votre avis, Grégoire le Grand, s'il venait à notre époque, aujourd'hui, trouverait-il des défis plus terrifiants que celui qu'il a relevé lui-même, ou moins terrifiants? Nous conduirait-il à relativiser un petit peu les tourments qui sont les nôtres au regard de l'effondrement qu'il a lui-même vécu? Ou se dirait-il, mon Dieu, c'est encore pire, c'est plus insidieux, c'est plus difficile?
Je ne sais pas, là, je suis agnostique, je ne sais pas. Mais je dirais, je crois qu'il
Alors
ferait...
Alors ne mettez-vous pas à la place de Grégoire Legrand, mais votre opinion.
Il ferait ce qu'il a fait en son temps. Et je dirais, au risque de simplifier un peu, mais je prends le risque, il ferait ce que fait le pape François. C'est-à-dire... ne pas avoir peur. Avoir peur, d'une certaine manière, ne pas avoir peur du monde, l'aimer. Et puis en appeler à ce qui est le plus intérieur, c'est-à-dire aux consciences et au cœur. Comme dit le pape François, réchauffer les cœurs. Et ne pas chercher à convertir de force, mais chercher à... c'est une expression qui est dans Saint Benoît, et Grégoire a été le biographe de Benoît, « redire ad cor », c'est-à-dire revenir à son cœur. Et je constate que le pape François, et c'était peut-être vrai de Grégoire, qui était quelquefois très mal vu de certains personnels ecclésiastiques de Rome, après son élection, il limoge l'archidiacre de Rome, qui gérait les finances de l'Église catholique à Rome, on s'entend, si vous voulez. Donc, un peu comme le pape François et comme Grégoire, Grégoire, à sa mort, comment dire, et puis il était religieux, il était moine, le clergé, comme on dit aujourd'hui, diocésain ou séculier, ne l'avait pas forcément à la bonne. En tout cas, il a dû lutter à l'intérieur même de l'Église pour faire valoir l'essentiel. Et comme je vous dis, le pape François, on dit, encore une fois, le revenir à l'essentiel, revenir à l'intérieur, et faire jaillir, laisser jaillir les sources de l'intérieur. Et puis, faire apparaître la révélation chrétienne comme une nouveauté qui s'adresse au cœur.
Merci, Monseigneur. Terminer sur la nouveauté en partant d'un ouvrage sur Saint-Grégoire le Grand, c'est probablement ça le cœur du message. Les épreuves se renouvellent et la réponse est éternelle ?
Actuelle.
Éternellement actuelle.
Oui, l'éternité est dans le temps. L'éternité est dans le temps. Je l'ai appris de Saint-Augustin. J'ai eu un grand dialogue avec Éric Orsenna il y a 2 ans à Angoulême et nous avons beaucoup échangé sur l'éternité dans le temps. Expérience commune. Il y a des moments d'éternité. C'est-à-dire des moments où on voit, on sait, on comprend qu'on touche à l'essentiel. Et qu'à ce moment-là, ça fait du bien à tout le monde.
Bon, bien, écoutez, nous allons partir en quête de ces moments privilégiés. Et pour aider nos auditeurs, je rappelle de façon un petit peu plus prosaïque les références de votre ouvrage, de vos ouvrages. Donc, Saint-Grégoire le Grand, culture et expérience chrétienne, par Mgr Claude d'Agens de l'Académie française aux éditions du CERF. Et toujours de Mgr Claude d'Agens, Survie ou métamorphose, livre beaucoup plus récent et de...
Il sort aujourd'hui. Et
qui sort aujourd'hui, donc c'est presque du scoop. Oui. Et c'est consacré donc à l'avenir du catholicisme en France, une série de réflexions, survie ou métamorphose. Telle est peut-être l'alternative, l'éternelle métamorphose étant préférable à la seule survie dans le précaré, si j'ai bien compris,
oui,
votre message.
Nous sommes à l'école de Grégoire le Grand, aujourd'hui.
Merci, Monseigneur.
Merci à vous, merci beaucoup à vous. Thank you.